place publique. L'Église catholique est enfin prête à indemniser les victimes d'abus sexuels commis par des prêtres, y compris pour les cas prescrits. Une commission spéciale a été mise en œuvre, mise sur pied pour les prendre en charge. Sa présidente, l'ancienne conseillère d'État et conseillère nationale neuchâteloise, Sylvie Perrin-Jacquet, est notre invitée dans un instant. Le paysage hospitalier est en mouvement dans l'arc jurassien, un peu comme les plaques tectoniques. Dernier séisme en date, la votation qui garantit deux sites de soins aigus dans le haut et le bas du canton de Neuchâtel. Mais l'incertitude est aussi de mise pour l'hôpital de Moutier. L'actuel président du conseil d'administration de l'hôpital du Jura, Philippe Receveur, nous rejoint après 18h30 pour en parler. Enfin, ne manquez pas notre débat sur la préférence indigène. Les déçus du 9 février tentent d'imposer cette idée au niveau cantonal. En pointe, on trouve bien sûr l'UDC, mais pas seulement. À la gauche de la gauche, au POP, on veut aussi privilégier les travailleurs locaux. Nous verrons si ces deux partis entendent assumer une alliance contre nature. Et dans Place Publique, l'humour indigène a aussi sa place. Barnabé est avec nous après 18h30.
Jusqu'à 19h, Place Publique. Gabriel Devec.
Bonsoir, on reparle d'abus sexuels au sein de l'Église catholique. Il y a la sortie aujourd'hui même en librairie d'un témoignage bouleversant écrit par le fribourgeois Daniel Pittet, victime d'un prêtre pédophile durant 4 ans alors qu'il était enfant. Un ouvrage préfacé par le pape François et auquel l'évêque du diocèse de Genève, Lausanne, Neuchâtel et Fribourg, Charles Morero, a participé. Et on en parle de ces abus sexuels aussi parce qu'il y a eu cette annonce cette semaine de la conférence des évêques suisses qui déclare que l'Église est prête à indemniser les victimes, notamment pour les cas prescrits, des cas pour lesquels la justice ne peut plus rien faire. Il existe deux instances chargées d'indemniser les victimes. L'une est interne à l'Église, il s'agit de la commission du diocèse, et l'autre est externe. Il s'agit de la commission d'écoute, de conciliation, d'arbitrage et de réparation qu'on nomme la CECAR. Et c'est vous qui la présidez, Sylvie Perrin-Jacquet, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Alors on va tenter de comprendre comment fonctionne la procédure, à commencer par cette question, qui peut vous envoyer une demande d'indemnisation ?
Toute victime dont le cas est prescrit. Elle peut s'approcher de nous et nous prendrons note de son inscription, nous allons simplement contrôler les documents qu'elle nous fera parvenir et ensuite de la commission, son dossier partira dans un comité que la victime aura choisi. Donc elle a la possibilité, puisque nous avons sur le site déjà 3 comités qui sont constitués, elle pourra choisir 2 comités avec lesquels elle est prête, je dirais, à travailler, à avoir une qualité d'écoute pour tenter de trouver réparation.
Pourquoi c'est important d'avoir la CECAR, donc cette commission que vous présidez, neutre et indépendante de l'Église ?
Parce que vous avez nombre de victimes qui, ayant subi les sévices qu'ils ont subis dans le cadre de l'Église, ne désire absolument pas être entendu par une commission diocésaine. C'est vrai que dans votre introduction, vous l'avez mentionné, cela existe, mais vous avez des victimes qui ne veulent pas être reçues et auditionnées ou entendues ou écoutées par un représentant de l'Église. Donc nous sommes totalement neutres et indépendants. Ils peuvent venir, nous leur assurons une écoute et nous leur assurons aussi de trouver avec eux la réparation à laquelle ils aspirent.
La conférence des évêques suisses évoque le nombre de 223 victimes identifiées entre 2010 et 2015. Ça veut dire, si l'on comprend bien, que ce chiffre pourrait être plus élevé si on tient compte de ces gens qui n'ont pas encore osé parler et qui pourraient s'adresser à vous.
Absolument, c'est tout à fait juste. Parce qu'en fait, là, les chiffres que vous mentionnez sont les chiffres des victimes qui ont choisi malgré tout de s'approcher de l'Église pour être écoutés. Et nous partons de l'idée que nous aurons certainement d'autres profils de victimes qui ne désirent pas être entendus par un représentant de l'Église.
Alors votre commission est composée de plusieurs personnes qui ont des rôles différents. Comment vous allez instruire, si j'ose dire, ou du moins déterminer la crédibilité des cas qui vous seront amenés? Comment vous allez déterminer s'ils sont crédibles et s'ils nécessitent réparation?
Alors, c'est la victime elle-même qui va remplir, en fait, le document qui se trouve sur notre site. Elle va nous envoyer au travers de, soit de documents qu'elle possède, soit au travers d'une narration. Elle va nous indiquer quand ça a eu lieu, où elle va nous mettre le nom de la personne ou des personnes concernées. Nous, on va simplement s'assurer que le cas est prescrit, parce que ça, c'est la première chose à laquelle nous sommes attentifs. Et puis ensuite, le dossier est transmis aux 10 comités choisis. Et c'est le comité, dans le cadre des rencontres d'écoute qu'il aura avec la victime, qu'à ce moment-là, je dirais, la véracité des faits seront confirmées. Et puis surtout, ce qu'il s'agit de trouver ensemble, c'est le type de réparation que la victime désire.
Mettons que des victimes s'adressent à vous, que les cas ne sont pas prescrits. Est-ce que vous serez une courroie de transmission vers la justice pour indiquer l'existence de cas qui mettent en cause des hommes d'église toujours en activité ?
Alors, nous pouvons l'être, mais je dirais que nous le serons en accord avec la victime. Je crois que ça, c'est très important. Vous avez des victimes qui sont prêtes à partir dans ce type de procédure et vous en avez d'autres qui ne le désirent pas. Donc, nous partons déjà sur le principe que le cas est prescrit. Au cas où ça s'avérerait ne pas être le cas, là, nous devons discuter avec la victime pour savoir si elle est prête à aller plus loin, si elle entre en matière sur le fait que nous dénonçons son abuseur et puis qu'une procédure, forcément, après, est organisée. Mais ce qui nous paraît surtout important, c'est que l'Église reconnaisse les cas prescrits, reconnaisse que les victimes ont été abusées et surtout que la victime se rende compte qu'elle n'est pas responsable. Ça, je crois que c'est le plus important, elle n'est pas responsable de ce qu'elle a vécu. En règle générale, ces victimes étaient des enfants à l'époque, les prêtres étaient loin d'en être et je crois que c'est surtout cela aussi qui doit être remis à sa place.
Alors, il y a plusieurs manières de reconnaître ce qu'il s'est produit, notamment financière, hein, on en a parlé. L'Église a provisionné un montant d'un demi-million de francs, 500 000 francs. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce montant ? Est-ce qu'il pourrait ne pas suffire ?
Ah oui, bien sûr. Moi, je pars de l'idée que c'est un montant de base sur lequel nous pouvons nous accrocher. Mais dès le moment, je dirais, où il y aura plus de victimes que ce que certains peuvent imaginer, le montant ne suffira pas. Il faudra que l'Église, je dirais, réapprovisionne le fonds. Ça, c'est une évidence.
Parce que selon la gravité des cas, hein, l'indemnité pourrait atteindre jusqu'à 20 000 francs, d'après ce qu'on peut lire.
Oui, absolument. C'est tout à fait juste. Tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce qui sera, selon vous, Sylvie Perrin-Jacquet, le plus difficile ?
Ah, je pense que le plus difficile, ce sera pas le volet financier, parce que le volet financier, à un moment donné, le comité avec la victime se met d'accord sur une réparation financière. Je crois que la difficulté, ce sera de, si une victime veut voir son abuseur, que l'abuseur est encore vivant et qu'il y a un déni de l'abuseur. Et je crois que c'est là où ce sera difficile, parce que nous devrons faire toutes les démarches possibles et imaginables pour que l'Église parvienne à ce que l'abuseur arrête d'être dans le déni, parce que nombre d'entre eux sont dans le déni, et puis ensuite de pouvoir mettre face à face, je dirais, l'abusé et l'abuseur, s'il y a la volonté que ce soit cette démarche-là qui soit construite. Ça, je pense que c'est l'élément qui sera le plus difficile.
Pour conclure, Sylvie Perrin-Jacquet, aujourd'hui paraît en librairie donc le livre du témoignage du fribourgeois Daniel Pittet, hein, victime, lui, d'un prêtre pédophile, un ouvrage promu par l'Église, puisque le pape lui-même l'a préfacé. On imagine que c'est de nature à libérer la parole et surtout à encourager les victimes qui pourraient avoir envie de se confier à vous.
Alors moi, je le souhaite, parce que je dirais que la manière dont Monsieur Pittet a construit son témoignage, a construit son livre, bon, lui a choisi de pardonner, c'est sa résilience à lui, c'est le chemin qu'il a désiré parcourir. Et je crois surtout, il a un message où il indique quand même aux victimes, nous ne sommes pas responsables. Et cela, vous devez l'entendre et vous devez tenter d'avancer avec cette situation-là. Et je dirais que nous, c'est exactement le même rôle que nous désirons jouer. C'est non seulement qu'il y ait réparation, qu'il y ait surtout écoute, que quand les victimes viennent, elles ne sont pas, je dirais, des accusées. Ce sont au contraire des personnes qui doivent pouvoir poser leur témoignage et on doit trouver avec eux des solutions.
Merci beaucoup Sylvie Perrin-Jacquet d'être venue dans Place
monsieur.
Publique. Vous
merci
présidez
beaucoup.
Donc la commission d'écoute de conciliation, d'arbitrage et de réparation, la CECAR. Nous allons mettre en lien votre site sur rtn.ch, sur rjb.ch et rfj.ch. Comme ça, les victimes potentielles pourront s'adresser à vous. Bonne suite de soirée.
Jusqu'à 19h, Place Publique. Gabriel Devecq.
Et avant d'être au chevet des hôpitaux dans l'arc jurassien avec notre prochain invité, on revient en détail sur ce qui s'est produit le week-end dernier du côté du canton de Neuchâtel. Et c'est avec vous, Barnabé. Bonsoir.
Hey, bonsoir, Gab. Eh oui, à 84%, les chaudes phonies ont parlé. Nous, on va à l'hôpital, déjà qu'on n'a plus de neige. Après 40 ans de oui, non, peut-être, retour à zéro, le double hôpital Neuchâtelois, et là c'est paf, bif, baboum. J'ai une petite pensée émue quand même pour Laurent Courte, le pauvre. Messieurs, dames, les politiques, écoutez les rues. Si vous écoutiez, vous auriez su que le peuple était prêt à s'endetter pour construire un vrai bel hôpital au milieu, à Landeilleux. Vous avez 10 ans de retard, on a compris qu'il fallait faire des concessions. Je suis presque sûr que si vous aviez coupé la poire en deux en disant « ça va coûter cher une fois », mais après, c'est une vraie bonne solution. Les citoyens auraient dit ok. Vous auriez même pu reparler du Transrun. Enfin bon, moi je sais Gab, je m'enflamme un petit peu au final. Et puis on va quand même l'avoir dans le baba, nous aussi. Car deux hôpitaux, c'est sans doute pas une très bonne solution. On va ramasser, je sais, mais bon, ça fait du bien de temps en temps de leur rappeler de nous écouter à tous ces politiciens. Quand je vois ce que le château a fait aux anciens rayons, j'ai déjà peur pour nous. C'était du grand art, hein, quand même. Ah, vous voulez pas qu'on touche à la grille salariale? Ok. Bon, on supprime une heure de cours hebdomadaire à tous les élèves. Oh, la gueule des enseignants. Hein, mais pourquoi vous pouvez pas faire ça? Si, ils peuvent, aïe. Alors là, les hôpitaux, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ose même pas imaginer ce qu'ils vont nous inventer comme solution. Pour économiser, on va supprimer les oreillers dans les lits. C'est pas médical, un oreiller. Hein? Ou alors, à la chaux, on va mettre dans les chambres du carton sur les fenêtres. Bah oui, ça économise les rideaux. Puis comme ça, on peut reprendre les fenêtres, pas casser pour les mettre à neuf. Ou alors, on va faire des chambres à trois murs. Un quart du budget en moins. Bon, ils vont peut-être se mettre pour économiser à engager des médecins russes ou syriens ou carrément des boulangers pakistanais. Des ostréiculteurs comme que gynécologues, s'ils sauvent des huîtres, ça devient bien pour savoir ouvrir les moules.
Oh là là.
Enfin, mieux encore, pour réutiliser les instruments de chirurgie. Hein, après, pour Thalès, on les enverra directement à la Chaux-de-Fonds. Les outils sales et les poches de transfusion vides dans des bacs avec des post-it dessus, avec le groupe sanguin. Pochette à remplir avec du AB positif. Bistouri pour ouvrir du O négatif. Fraisseuse pour os de B négatif uniquement. Oh, on aura le scandale des post-it un jour. Un employé qui aura bossé 72 heures d'affilée, les aura fait tomber et aura mélangé les post-it. Et du coup, on appellera les chaudefonniers les sans mêlés. Ce sera les sans de bourbe du Jura. Ah, les chanceux qui auront une complémentaire iront se faire soigner à Seigneur-le-Gélier ou à Saint-Imier. Il y aura une clause spéciale à Neuchâtel dans les assurances. 150 francs de plus par mois pour se faire opérer hors canton. Un assureur reste un assureur. Hein. Si c'est immoral et qu'en plus ça peut engendrer des bénéfices, il le fait. On dira, ouais, c'est un riche, il vient de Seigneur. Oh purée, j'en pleure déjà. Ah, les franches auront plus la cote qu'Auvergnier. Moutier et Porrentruy seront tellement touchés par le calvaire neuchâtelois qu'une fois par mois, ils organiseront des bus de médecins qui viendront opérer gratuitement nos enfants sous des tentes, montés exprès sur les places du marché des différents villages et des mêmes villes. Les hôpitaux du Jura vont devenir un CHU et faisant concurrence au CHUV et à celui de Lille, à Berne, on va tout recentraliser. Adelémont, qui avec sa nouvelle autoroute toute neuve, va devenir le centre du monde. Ah Gab, je peux pas, un jour il y aura plus de HCC et puis je devrais supporter le HC à joie et ça c'est trop dur.
Place publique.
Pauvre Barnabé, merci beaucoup. Allez vous soigner, vous réconforter. Il y a encore un hôpital, profitez d'y aller. C'était Barnabé, sa vision du défi hospitalier qui va toucher l'ensemble de l'arc jurassien. Merci à lui. Et on va en parler justement avec notre invité Philippe Receveur. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le conseil d'administration de l'hôpital du Jura, implanté à Delémont, Porrentruy et Seigneur-le-Gélier. Alors une réaction à ce que vous venez d'entendre. Est-ce que les patients neuchâtelois vont vers des lendemains difficiles? Et dans quelle mesure un hôpital comme le vôtre, l'hôpital du Jura, sera impacté?
Bon, écoutez, je crois que Barnabé fait de l'humour, et moi je ne suis pas ici pour m'exprimer dans la foulée du scénario qu'il pose sur Delémont, surtout pas. Moi je pense que le défi qui s'ouvre actuellement au sein du canton de Neuchâtel est d'abord l'affaire des Neuchâtelois, qui se sont prononcés démocratiquement, dont le gouvernement récemment a dit qu'il allait se mettre au travail pour mettre en œuvre cette nouvelle manière d'organiser les hôpitaux. Et nous sommes voisins, donc les ressources essentielles proviennent du canton de Neuchâtel, l'hôpital neuchâtelois, peut-être d'autres acteurs neuchâtelois aussi. Peut-être à un moment ou un autre, les voisins peuvent avoir un rôle à jouer, mais sur une base partenariale, si ça est demandé, si ça présente une utilité ou un intérêt, mais assurément pas arriver ici en disant, voilà, nous on a réfléchi à votre place, on a une solution pour vous, voilà ce qu'il faut faire. C'est absolument pas le rôle de l'hôpital du Jura.
Est-ce que stratégiquement, le vote des Neuchâtelois, avant qu'on parle peut-être plus spécifiquement justement de l'hôpital du Jura, est-ce que ce vote des Neuchâtelois ouvre selon vous, spécialiste de la santé, hein, vous avez été ministre de la Santé, maintenant vous présidez ce conseil d'administration de l'hôpital du Jura, ouvre des perspectives intéressantes et réalistes pour deux villes distantes d'une vingtaine de kilomètres? On parle de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Mais vous ne pouvez pas demander au président du conseil d'administration de l'hôpital du Jura de faire une analyse critique du vote des Neuchâtelois. Je pense que la volonté populaire s'est exprimée. Il s'agit maintenant aux acteurs concernés de la mettre en œuvre. Et donc, à partir de là, cette affaire appartient essentiellement à ceux qui ont pris la décision et à leurs autorités.
Il y a toutefois des enjeux qui sont communs à la Suisse romande, des enjeux de concentration, de masse critique, de pénurie de médecins, de spécialisation, etc. On imagine que ça doit quand même vous interpeller. Vous avez un avis sur la question.
Vous savez, dans ce contexte-là, il faut laisser les politiques faire de la politique. Il faut aussi que les établissements hospitaliers sachent se projeter dans le nouveau cadre donné par le droit fédéral, où on voit que la planification en partie, mais essentiellement aujourd'hui la qualité, le fait d'être présent pour délivrer de bonnes prestations, organise les flux. Et sur ce plan-là, nous avons toujours eu de bons échanges, tant avec le canton de Neuchâtel qu'avec le canton de Berne pour l'hôpital du Jura bernois, dans l'idée de trouver la meilleure interaction possible entre nos différentes compétences au sein de l'arc jurassien. Je crois que ceci sera toujours plus nécessaire à l'avenir, en particulier compte tenu de la recomposition du paysage hospitalier neuchâtelois, puisqu'on sait que tant les Franches-Montagnes aujourd'hui dépendent dans une certaine mesure des services offerts par l'hôpital du Jura bernois. L'hypothèse d'un hôpital à La Chaux-de-Fonds est quelque chose à quoi on ne peut pas assister de manière insensible. Il s'agira pour nous de quelque part d'être présent dans un contexte de dialogue pour voir comment accompagner cette évolution.
Précisément, hein, cette votation neuchâteloise redistribue quand même les cartes dans la région. Oui. Elle montre que des solutions intercantonales ou publiques-privées sont envisageables, sous le signe du partenariat, on vous a bien compris. On vous a d'ailleurs entendu, en automne dernier, approuver le principe d'un redécoupage des bassins hospitaliers, avec, si on résume, d'un côté, Delémont, Porrentruy et Moutier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Saunier-Légier d'un autre côté, tout en encourageant, pourquoi pas, Neuchâtel et Bienne à se rapprocher. Donc je repose peut-être la question un peu plus précisément que je ne l'ai fait au début de notre entretien, est-ce que pour l'hôpital du Jura, il y a là un coup à jouer ?
Non, je pense que le terme serait particulièrement mal choisi. Nous avons d'ailleurs, pour notre part, une mission qui nous est donnée par la loi jurassienne. Nous avons également un contrat de prestation à assurer en faveur de la population jurassienne et des alentours. Il ne s'agit pas de jouer un coup, de se présenter là comme l'auteur d'une offre publique d'achat inamicale. Nous avons à ménager les meilleures coopérations possibles avec notre entourage, dont le canton de Neuchâtel fait immanquablement partie, comme c'est le cas du Jura bernois. Et nous avons, sur ce plan-là déjà, aujourd'hui, un certain nombre de coopérations qui sont en cours et que nous souhaitons voir développer encore pour le futur. Et ce serait tout à fait envisageable également avec la partie neuchâteloise.
Est-ce qu'on peut dire malgré tout que le résultat de cette votation ouvre plus de possibles que si le scénario avait été en faveur d'une concentration des soins aigus à Neuchâtel ?
Mais vous savez, il faut se faire aux réalités du terrain. Et aujourd'hui, c'est ce cadre-là qui nous est donné. On peut toujours après faire des suppositions en disant « ça aurait été mieux comme ci, ça aurait été mieux comme ça ». D'ailleurs, j'observe au passage qu'on est toujours beaucoup plus intelligent après qu'avant. Moi, je pense surtout maintenant que les cartes sont redistribuées. Il va y avoir des changements d'une certaine importance. Et comme il se doit, un hôpital de niveau cantonal, comme c'est le cas de l'hôpital du Jura, doit observer très attentivement ce qui se passe, voir dans quelle mesure, si cela est souhaité, sa coopération peut être apportée et puis le faire dans un véritable esprit de service à la population et non pas le moins du monde dans l'idée de donner de leçons à qui que ce soit.
On parlait de plaques tectoniques, hein, pour parler du paysage hospitalier. Ces plaques, elles bougent, notamment du côté de Moutier, elles pourraient bouger, car l'hôpital de Moutier, le site de Moutier de l'hôpital du Jura bernois cristallise quand même les tensions autour du vote communaliste. Est-ce que ce vote-là joue aussi son rôle par rapport à un possible redécoupage ? Est-ce que ça pourrait, en cas de maintien dans le canton de Berne, couper court à des velléités de mise en réseau ou que sais-je ?
Alors il faudrait poser cette question-là aux Bernois. J'ai lu aujourd'hui un communiqué de presse du conseil exécutif bernois qui semble voir d'abord les difficultés. Du côté de l'hôpital du Jura, en tout cas, on veut d'abord voir les perspectives que cela ouvrirait. Mais je considère que, comme on l'a entendu jusqu'à aujourd'hui de manière constante par les autorités cantonales des deux cantons concernés, de la part de l'hôpital du Jura bernois aussi, tout comme de l'hôpital du Jura. On ne peut pas dire à la fois que le passage de la frontière tel qu'il existe aujourd'hui ou s'il devait être changé dans le futur n'aura pas d'impact sur le sort des hôpitaux parce que c'est à un autre niveau que ça se passe, et puis simultanément dire si Moutier vaut oui, c'est fichu pour l'hôpital de le site de Moutier de l'hôpital du Jura bernois. Personnellement, je suis convaincu du contraire. Il y aurait là de belles synergies de coopération, peut-être plus vives et plus importantes que la réserve à laquelle malheureusement la question actuellement en suspens nous confronte pour notre part, et sans rien vouloir endommager en quoi que ce soit la structure de l'hôpital du Jura bernois dans son intégralité. Je souligne encore le rôle important de Saint-Imier pour les montagnes. Nous voulons rester un bon partenaire et se rapprocher un maximum. Ceci, quel que soit le sort que la frontière pourrait connaître dans le futur.
Donc Moutier, si elle devenait jurassienne, eh bien ça ne voudrait pas dire forcément que la prévôté devrait renoncer à son site hospitalier avec les blocs opératoires tels qu'ils existent aujourd'hui et les urgences 24 heures sur 24.
Mais absolument pas, et à l'inverse non plus d'ailleurs. Hein.
L'hôpital du Jura collabore étroitement avec l'hôpital de Bâle. Est-ce que ça, c'est compatible avec une mise en réseau dans l'arc jurassien qui est envisageable ? Et j'en termine avec ça.
La compatibilité, c'est essentiellement celle qui tient compte, je dirais, des bassins versants. Vous ne pouvez pas forcer des flux de patients dans un sens ou dans un autre. Il faut tenir compte de la réalité du terrain, être là pour apporter les prestations. Et si on n'en a pas les moyens, se grouper avec des partenaires. Alors il est clair que pour le canton du Jura, aujourd'hui, il y a une forme de partenariat privilégié avec l'hôpital universitaire de Bâle. Mais nous avons d'excellents partenariats aussi avec l'Inselspital, avec le CHUV, voire les HUG, et que de ce point de vue-là, encore une fois, un redécoupage de frontières n'empêcherait en aucune manière la bonne organisation des établissements hospitaliers qui ont pour mission avant tout de délivrer des prestations de qualité à leur population et qui ne doivent pas faire de politique.
Merci infiniment Philippe Receveur d'être venu dans Place Publique nous parler de ce paysage hospitalier en mouvement, et puis on suivra tout ça bien sûr avec beaucoup d'attention. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, à bientôt.
Merci à vous, bonsoir.
Place publique.
Engager d'abord les résidents du canton avant les travailleurs frontaliers, c'est le combat mené par l'UDC dans plusieurs cantons suisses, notamment dans le Jura. Aujourd'hui, la section neuchâteloise du parti a présenté son initiative en ce sens. Hier, c'était les Valaisans. Des démarches qui s'inspirent de l'exemple tessinois avec un texte similaire adopté par le peuple en septembre dernier. La question est particulièrement sensible dans le canton de Neuchâtel, qui affiche le taux de chômage le plus élevé de Suisse avec 6,6%. Si bien que même à gauche de la gauche, on exige aussi des mesures urgentes pour inciter les entreprises à engager les employés d'ici et pas d'ailleurs. Autant dire que les opposés se rejoignent. Ont-ils pour autant la même analyse et les mêmes solutions ? Est-ce qu'ils ne jouent pas avec le feu en mettant les entreprises de la région en difficulté, notamment en condamnant peut-être nos relations bilatérales avec l'Europe, déjà sous tension ? Est-ce qu'à 6 semaines des élections, on ne brandit pas un formidable outil marketing ? Alors, 2 invités pour en débattre. Yvan Perrin, président de l'UDC Neuchâteloise, bonsoir.
Bonjour monsieur.
Et avec vous, Daniel Ziegler, président du Parti Ouvrier Populaire Neuchâtelois, le POP, bonsoir.
Bonsoir.
Yvan Perrin, votre parti a déposé officiellement l'initiative intitulée « Les nôtres avant les autres ». À l'instar du Tessin, votre texte veut favoriser l'embauche des locaux, on l'a bien compris, mais aussi lutter contre la sous-enchère salariale. Alors on comprend l'idée, admettons qu'elle soit un jour approuvée, par quels moyens vous comptez la faire appliquer ? Quand on voit combien c'est difficile d'appliquer le 9 février.
De ne pas appliquer le 9 février, précisément, puisque le Parlement et le gouvernement à Berne ont délibérément choisi de s'asseoir sur la votation populaire. Et donc, du coup, c'est les cantons qui doivent reprendre. Alors, nous n'arrivons pas avec une solution clé en main, mais avec un article constitutionnel qui devra ensuite être traduit dans la loi par le Grand Conseil et le Conseil d'État. Et il y a un certain nombre d'outils. Un constat tout d'abord, je crois qu'on fait le même avec le POP, moyenne suisse 3,7, moyenne neuchâteloise 6,6, commune du Locle 9% de chômage. Alors que le canton crée chaque année des places de travail, on ne peut que constater que ces places ne profitent pas en priorité à la main d'œuvre du canton et nous le regrettons.
Daniel Ziegler, votre parti, le POP, demande au fond rigoureusement la même chose. Vous allez signer donc l'initiative de l'UDC ou bien en tout cas laisser la liberté à vos militants de le faire ?
Non, alors très clairement, nous n'allons pas soutenir cette initiative. Nous ne sommes pas dans la même logique que l'UDC. L'UDC s'en prend aux frontaliers. nous ne nous prenons pas aux frontaliers.
Indirectement, oui, quand même, quand vous demandez, vous incitez...
parfaitement le rapport très important à l'économie neuchâteloise. Nous en prenons aux entreprises neuchâteloises qui ne prennent pas leurs responsabilités sociales. Pour nous, par exemple, lorsqu'une entreprise ne fait des annonces d'offres d'emploi que sur la France et pas dans la presse régionale, il y a quelque chose qui ne joue pas. Lorsque certaines entreprises, parce que leur RH sont français, n'utilisent que des filières françaises et n'engagent pas des gens de la région, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous, c'est les entreprises qui ne prennent pas leurs responsabilités sociales et ce n'est pas les frontaliers en tant que tels que nous combattons.
Indirectement, c'est quand même eux qui sont visés quand vous demandez des mesures incitatives pour recourir à la main-d'œuvre locale.
Voire coercitive, hein. On place des mesures incitatives et coercitives. C'est la prise de position du POP du 9 février dernier.
Daniel Ziegler, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un esprit très similaire à l'initiative UDC, quoi que vous en disiez ?
Non, comme je le dis, notre adversaire, c'est vraiment pas les frontaliers qui, pour nous, comme pour les syndicats d'ailleurs, sont des travailleurs, comme tous les autres travailleurs, sont parfaitement respectables. UDC se sert ici, une fois de plus, d'un véritable problème pour répondre à son discours xénophobe. Nous n'allons pas nous associer à ce type de démarche-là. Il y a un problème du marché de l'emploi dans ce canton de Neuchâtel qu'il faut attaquer. Mais c'est pas en s'attaquant directement aux frontaliers, mais en veillant à ce que les entreprises prennent aussi leurs responsabilités sociales qu'on va y arriver. Et là, contrairement à l'UDC qui veut simplement un article, nous proposons quand même quelques solutions qui vont dans le sens des travailleurs, qu'ils soient maintenant suisses ou qu'ils soient frontaliers.
Alors, j'ai votre communiqué de presse sous les yeux. En effet, l'embauche et la protection des travailleurs locaux doivent être une priorité. Je ne vois pas vraiment la différence qu'il y a avec le texte de notre initiative, vous me pardonnerez.
Alors, je peux vous dire par exemple qu'une des solutions que nous préconisons, c'est qu'on veille davantage aux conditions d'engagement dans ce canton. Il s'agit là pas seulement du salaire, mais par exemple de la reconnaissance, de l'expérience au moment où on engage quelqu'un. C'est là-dessus qu'on va jouer sur des différences et qu'on va faire du dumping social dans ce canton, dont profitent les entreprises. Et j'aimerais rappeler que ces deux dernières années, nous avons déposé deux projets qui allaient dans ce sens-là et qui, tous les deux, parce qu'ils s'attaquaient aux entreprises et non pas aux frontaliers, ont été refusés par l'UDC au Grand Conseil.
Au final, Daniel Ziegler, est-ce que vous ne craignez pas que dans l'opinion, dans le public, la démarche qui est la vôtre et celle de l'UDC soit rigoureusement associée ? Comment expliquer aux gens
C'est peut-être un danger, parce qu'une lecture superficielle peut mener à cette lecture-là. Ce sera à nous de communiquer très clairement et de nous distancier de cette démarche de l'UDC.
Yvan Perrin, est-ce que vous avez trouvé avec le POP un allié contre nature, soit-il, en or ?
Non, je ne crois pas. M. Ziegler a bien expliqué. À partir du moment où l'idée vient de l'UDC, elle est forcément condamnable et ils ne sauraient s'y associer. La population verra bien quel est le but de notre initiative. Nous souhaitons favoriser la main-d'œuvre cantonale. Je dis bien cantonale et pas suisse. Ce n'est pas une opposition aux frontaliers, c'est simplement que nous souhaitons que la prospérité que le canton de Neuchâtel crée année après année profite aussi aux gens du canton et pas seulement de l'autre côté de la frontière, puisqu'on est quand même frappé parce que les deux courbes évoluent de manière sensiblement identique, à savoir la création d'emplois et l'augmentation du chômage.
Yvan Perrin, des patrons d'entreprises le disent sans détour, les frontaliers permettent aussi de pallier des pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans certains domaines et contribuent donc à l'essor des dites entreprises, ce qui permet du coup d'engager aussi local, parce que l'entreprise va bien, c'est une relation de cercle vertueux. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors si le cercle est vertueux, je m'étonne quand même que le chômage continue d'augmenter et que ce soit précisément dans un canton où le cercle vertueux tourne qu'on ait le plus haut taux de chômage de Suisse. Manifestement, il doit y avoir un petit hiatus dans la proposition.
Daniel Tigler, est-ce que vous craignez pas, même avec vos mesures incitatives ou coercitives, hein, pour encourager les entreprises ou les forcer à engager local, vous les mettiez en difficulté, car certains patrons, on peut les entendre si on les interroge, nous disent clairement que ce n'est pas la solution, la préférence indigène.
Alors, écoutez, il y a des cas bien précis, notamment dans l'horlogerie, où c'est véritablement le cas pour certaines professions pointues. Et là, l'État a aussi une certaine responsabilité parce que le personnel formé, eh bien, il est formé en France, il n'est plus formé chez nous. Là, c'est un problème de l'État. Mais ça, c'est vraiment des cas très exceptionnels. Je relève simplement que nous avons déposé, par exemple, un projet, un amendement à la loi sur l'hôpital Neuchâtelois qui demande que l'hôpital Neuchâtelois engage en premier lieu des infirmières formées ici, qu'elles soient étrangères ou suisses, peu importe, mais formées ici plutôt que sans cesse des infirmières françaises.
L'UDC aussi propose une embauche prioritaire locale pour le public et le privé.
Le président de l'UDC a refusé. Nous avons déposé, la gauche, un autre projet qui demandait à ce que les entreprises soient pénalisées si elles n'engagent pas en premier lieu des gens qui sortent de l'aide sociale ou du chômage. L'UDC a voté contre. Alors, quelque part, il faut être cohérent un peu.
Est-ce qu'il n'y a pas des logiques partisanes qui sont précisément incohérentes, Yvon Perrin? Une fois que ça vient de la gauche, eh bien la droite refuse et inversement.
Non, je crois que le mot à retenir dans la bouche de M. Tigler, c'est pénaliser. Pour lui, le patron est un épouvantail, c'est un affameur, quelqu'un qui se nourrit de la sueur des ouvriers sans leur laisser la moindre miette.
C'est ce qu'on peut déduire de votre initiative aussi, Yvon Perrin, puisque vous les accusez de ne pas engager local.
Ah non, on ne les accuse pas, on constate. On constate, et dans notre initiative, je rappelle, c'est une initiative constitutionnelle rédigée en termes généraux, et nous souhaitons qu'il y ait un volet consacré à la formation. Si vous avez des secteurs de l'économie qui sont en plein développement et qui ne trouvent pas la main-d'œuvre dans notre canton ou dans les cantons voisins, c'est que manifestement, nous avons un souci de formation. Et lorsque le Grand Conseil et le Conseil d'État se pencheront sur cette initiative, il leur appartiendra de traduire cela dans une loi. Et je prends note que nous aurons déjà le POP contre nous. Simplement, si M. Ziegler souhaite pénaliser les patrons, ben le résultat, ce sera quand même qu'il y aura moins de frontaliers. Donc, que ce soit directement ou moins directement, M. Ziegler vise aussi la main-d'œuvre qui nous arrive de l'autre côté du Doubs.
Une réponse par oui ou par non, messieurs, pour terminer.
J'aimerais répondre à monsieur Perrin quand même. Il fait vraiment une caricature. Nous ne nous en prenons pas aux patrons. Nous nous prenons aux entreprises qui ne prennent pas leurs responsabilités sociales. C'est quand même pas la même chose. Il ne faut pas faire une caricature.
Messieurs, très rapidement, par oui ou par non, est-ce que, vu que le 9 février va être quand même mis en œuvre avec la possibilité de limiter l'immigration des travailleurs dans certaines branches particulièrement sinistrées ou dans certaines régions particulièrement sinistrées, est-ce que vos idées, qu'elles soient sous forme d'initiatives ou de propositions, ne vont pas faire redondance? Daniel Tigler et puis ensuite Yvon Perrin.
Le POP est très clairement pour la libre circulation des personnes, contrairement à l'UDC.
D'accord. Yvon Perrin, pour conclure très rapidement.
Malheureusement, non, puisque ce qui est sorti des éprouvettes fumantes du Parlement et du gouvernement ne servira à rien du tout. Nos ministres sont tétanisés devant Bruxelles et veilleront systématiquement à ne jamais mettre en œuvre la moindre disposition susceptible de froisser Jean-Claude Juncker et sa clique.
Eh bien, le débat ne fait que commencer. L'initiative, elle est lancée, elle n'a pas encore abouti. Vous avez 6 mois pour recueillir 6 000 signatures. Daniel Tigler, on suivra aussi, bien sûr, les suites de vos propositions. On vous souhaite à tous les deux une excellente suite de soirée. Merci d'avoir débattu dans Place Publique.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir. Et c'est tout pour cette émission. Merci à tous. Merci à Yannick Frossard pour la réalisation. Retrouvez cette émission, bien sûr, sur rjbrtnrfj.ch. À la semaine prochaine.
Place publique.